à la hauteur.
Simon Martin,
Émilie Glory. Avec l'aide de la Fédération française des clubs alpins et de montagne. Et à tous. Dans ce numéro d'À la hauteur, nous retrouvons avec plaisir Marion Poitevin. Alpiniste, guide de haute montagne, mais aussi secouriste CRS de montagne, Marion a dû faire face à des préjugés tenaces dans cet univers très masculin.
Pour changer les choses, elle a créé au sein de la Fédération française des clubs alpins et de montagne un club 100% féminin qui s'appelle Lead the Climb. Il propose aux femmes alpinistes des formations et des stages et il entend surtout alerter sur l'absence des femmes dans les instances encadrantes ou dans des professions comme celle de guide. Pourtant, les femmes, dès lors qu'on leur a laissé le loisir de le faire, se sont révélées d'excellentes alpinistes. De la pionnière autrichienne Senzi von Ficker à la japonaise Yunko Tabei, première femme sur le toit du monde en 1975, en passant bien sûr par la surdouée française Catherine d'Estivel, les exemples ne manquent pas pour prouver à ceux qui en douteraient l'évidence de la place des femmes dans le monde de l'alpinisme.
Avec Marion Poitevin, aujourd'hui, nous allons redresser des torts. Et pour prendre conscience de la manière dont les femmes en montagne ont pu être considérées par le passé, commençons cette émission avec un certain Paul Preuss. En 1912, il écrit pour la revue spécialisée Deutsche Alpenzeitung un article sur les femmes et l'alpinisme suite à une expédition qu'il a effectuée avec plusieurs jeunes femmes. Morceau choisi.
La femme est la ruine de l'alpinisme. Les grandes difficultés commencent dès la vallée, où il faut déjà déployer des trésors de diplomatie pour calmer l'angoisse des mères. Une fois les obstacles théoriques balayés, il faut ensuite s'intéresser aux détails pratiques de l'expédition. N'avons-nous rien oublié d'autre? Houppette à poudre, crème caloderma, baume à lèvres, eau de cologne, huile de rose ou manucure? Ces dames ne connaissent pas de juste mesure. L'une emportera dans le sac à dos de monsieur 7 chemisiers blancs pour une excursion de 2 jours, alors qu'une autre ne prévoira aucune tenue de rechange. Le nom et l'altitude de la montagne, l'importance et la difficulté de l'expédition, évalués selon des critères absolus, sont des aspects insignifiants aux yeux des femmes. Elles ne se sentent pas plus concernées par la géographie et la terminologie alpine. La plupart des femmes manquent cruellement de sens de l'orientation. Elles possèdent néanmoins un pouvoir suggestif tel qu'elles parviennent à transposer cette lacune sur leur accompagnateur. Une femme n'a pas besoin de plus de 5 minutes pour perdre le chemin menant au refuge. Abordons à présent l'escalade en elle-même. Les femmes possèdent indéniablement une certaine habileté physique. Leurs mouvements, elles les exécutent généralement mal, mais presque toujours de manière gracieuse. Elles n'ont aucune maîtrise du terrain, et pour cause, elles manquent cruellement de sang-froid et de discernement. Suivant leur nature impulsive, elles escaladent pratiquement sans regarder ni réfléchir. Elles n'escaladent pas, elles se laissent simplement guider par leurs réflexes.
La suite est du même acabit, et je suis certaine, mesdames, alpinistes ou pas, que vous aurez apprécié ces remarques. Bien sûr, beaucoup de chemin a été parcouru depuis 1912. Des alpinistes émancipés sillonnaient dès le début du XXe siècle les plus hauts massifs du continent européen, faisant fi de ce genre de critiques et traçant pour leurs héritières un sillon profond, comme la Britannique Elizabeth Hawkins Whitshed, qui fonda en 1907 Avec l'argent de ses trois époux successifs, le Ladies Alpine Club, réservé aux femmes, car le club alpin de Londres leur était interdit. Au passage, il faudra attendre 1975 pour que les deux clubs fusionnent.
En France, nous avons aussi notre lot de pionnières et de grandes femmes alpinistes, jusqu'à la génération actuelle, représentée dans À la hauteur aujourd'hui par Marion Poitevin, qui revient sur son combat féministe à travers notamment le club Lead the Climb.
Bonjour Marion Poitevin.
Bonjour Émilie.
Alors nous allons de nouveau prendre la direction du massif des Écrins en votre compagnie aujourd'hui, mais cette fois c'est aussi et surtout un prétexte pour évoquer un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, la formation et la représentation des femmes dans le milieu de l'alpinisme français. Et commençons peut-être par les choses qui fâchent, puisque Marion, vous avez vous-même été victime de discrimination, notamment de la part de sponsors.
Tout à fait. Quand j'ai annoncé ma grossesse à mes partenaires matériels, à qui je travaillais depuis 6 années, qui me donnaient l'équivalent de 2 500 € de matériel chacun en textile et en matériel mousqueton ferraille, crampons, piolets, et ben quand j'ai annoncé ma grossesse, il y a un des deux partenaires qui m'a dit « comme tu es enceinte cette année, on va te mettre que 1 000 €, tu n'auras pas besoin de tout vu que tu vas pratiquer au ralenti ». Évidemment, c'est pas le genre de contrat qu'ils ont proposé aux jeunes papas ou aux papas en devenir. Et puis, mon deuxième partenaire, il a sorti un clip promotionnel de la marque où on voit plein d'athlètes de la marque en train de s'exprimer dans les sports de montagne. On voit un homme qui fait de la cascade de glace, un homme qui fait de la grande voie, un homme qui fait du trail, un homme qui fait de l'escalade sportive. Sur 10 athlètes, on voit seulement 2 femmes. Je leur ai demandé pourquoi et je me suis permise de leur faire remarquer que ça faisait quand même pas beaucoup pour un clip promotionnel en 2021. En 2020, ils m'ont répondu que comme j'étais enceinte, ils ne pouvaient pas me filmer et se faire accuser de faire travailler une femme enceinte et que comme je critiquais leur travail, j'avais de toute façon plus rien à faire chez eux et ils ont mis ça à mon contrat. Donc c'est vrai que l'année suivant ma grossesse, je perds 100 000 € de dotation matérielle. Mm-hmm. Alors que c'est à l'heure d'aujourd'hui, la femme la plus diplômée dans les sports de montagne, je suis secouriste de montagne, je suis de montagne, mais aussi d'escalade et de ski alpin et maman. Et j'ai pas de sponsor, et je trouve ça quand même assez incroyable.
Est-ce que ces préjugés, ces discriminations, on les rencontre également auprès des alpinistes hommes? Comment est-ce que vous, vous avez trouvé votre place dans ce milieu qu'on imagine quand même très masculin?
C'est vrai que c'est un métier, c'est un sport déjà qui est difficile, qui est rugueux, le mat, il faut porter des gros sacs, il faut marcher longtemps, mais finalement c'est quand même un sport qui est tout à fait adapté à la physiologie féminine. Les efforts longs, ça nous va quand même plutôt bien. Donc il n'y a pas de raison finalement qu'il y ait si peu de femmes, mais culturellement, c'est quand même un métier où il y a beaucoup d'hommes dans les refuges de haute montagne, dans les bureaux des guides, dans les formations, dans les clubs CAF, et du coup, en tant que femme, c'est un petit peu plus dur de faire sa place, d'oser prendre le leadership dans une cordée, d'oser poser des questions, d'oser venir aux sorties, faire des choses un petit peu plus dures pour progresser, s'entraîner et oser faire des erreurs, oser se tromper. Mm-hmm. Et donc du coup, la solution, c'est que j'ai créé un club CAF qui s'appelle Lead the Climb. C'était important par moi de parler de leadership. C'est un mot qu'on ne peut pas facilement traduire en français. Et pourtant, je trouve que c'est quelque chose de très important, le leadership. Alors en français, on dirait chef de cordée, mais alors on voulait un nom aussi de club mixte, plus inclusive. Et c'est vrai que l'anglais, tout de suite, c'est une bonne solution parce qu'ils n'ont pas de féminin, de masculin pour chaque nom propre. Donc, c'est beaucoup plus simple de s'exprimer en anglais sur certains sujets. Donc, tout de suite, c'est parti sur Lead the Climb, mène ta grimpe. Bon, mène ta grimpe en français, ça fait quand même vraiment moche. Et le leadership, c'est quand même une notion qu'on ne peut pas traduire en français, encore une fois. Et être leader d'une course, ça a vraiment une saveur un petit peu plus piquante, un petit peu plus intéressante. En gros, faire une course en montagne, ou faire une ascension en montagne, c'est comme manger un cookie. Voilà, c'est trop bon. Mais faire une course en montagne en leader, c'est comme manger un cookie, mais avec des pépites de chocolat. C'est vraiment encore plus croustillant. Et du coup, c'était vraiment l'idée de ce club, c'était de donner une place aux femmes pour qu'elles puissent progresser et puis oser prendre le leadership et se former. Donc, on propose des stages de formation au leadership à l'autonomie dans les sports de montagne entre femmes. Et on essaye au maximum de faire encadrer les stages par des femmes guides. Alors après, c'est compliqué parce que des femmes guides qui exercent aujourd'hui en France, il y en a une vingtaine. Il y a une trentaine de femmes diplômées. Et j'estime à une vingtaine de femmes qui exercent le métier aujourd'hui sur 1 600 hommes guides. Ouais. Donc c'est sûr qu'elles sont très demandées. Et en plus, elles sont forcément toutes sympas et très compétentes. Donc on essaye au maximum de les avoir chez nous, c'est pas facile. On propose 150 journées de formation par an et à la fin de l'année, on va être à peu près 300 adhérentes.
D'accord. Alors, vous parliez de confiance tout à l'heure. Est-ce que finalement les femmes elles-mêmes, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres domaines, est-ce qu'elles ne s'imposent pas parfois des limites, notamment dans leurs ambitions? Vous parlez de leadership, on a l'impression qu'il y a peut-être aussi une crise de confiance.
Alors complètement. Alors après, de là à dire que les femmes s'autocensurent, c'est un peu compliqué parce que quand on dit que de toute façon, depuis que t'es née, que les femmes, elles n'ont pas de sens d'orientation et qu'elles savent pas lire une carte, c'est quand même compliqué d'avoir confiance en soi et de se dire, bon, bah, je prends la carte et c'est moi qui mène le groupe. Évidemment que les femmes, elles n'ont pas confiance en elles, en leur juste valeur parce qu'on leur a tellement dit que de toute façon, elles n'étaient pas capables, que ça devient compliqué ensuite d'inverser tout ce processus. Par exemple, voilà, quand je pars en montagne avec un copain, assez naturellement, c'est lui qui va prendre la corde parce que les hommes sont plus forts et qu'ils peuvent porter plus. Et il faut que je me bagarre pour dire ben non, on porte la corde chacun un petit peu parce que si c'est toujours lui qui porte la corde, c'est lui qui va être plus entraîné, plus habitué à porter un sac et au final, c'est lui qui va être plus fort que moi. Et là, je crois qu'on se combat forcément des milliers d'années de culturel et ça va prendre encore un petit peu de temps.
Alors, on a abordé le problème des sponsors tout à l'heure. Précisons que leur soutien est primordial pour organiser une expédition et notamment à l'étranger. Est-ce que ces dernières années, il y a quand même eu des efforts de fait?
L'aspect des sponsors, c'est bien sûr qu'il y a eu un aspect financier qui m'a quand même vraiment touchée, mais c'est surtout l'aspect moral que là, clairement, on t'a dit, bah non, en fait, c'est plus un match, c'est plus une athlète. Pour nous, ce que tu fais, ça n'a plus vraiment de valeur, t'es juste une maman. Et là, on te renvoie à ta place de rester dans ta cuisine et d'être mère au foyer, tout ça parce que tu as fait le choix de 10 mois dans ta vie, de faire une petite pause pour mener à terme ta grossesse et puis t'occuper de ton bébé ensuite. Ça m'a vraiment pris réellement 10 mois. D'arrêt, de ralentissement, même pas d'arrêt. J'ai pu faire du sport jusqu'à 8 mois à ma grossesse. Je faisais encore du freeride au grand montée, donc bah tranquillement évidemment, pas au même niveau habituel. Mais... Donc c'est vraiment 10 mois de ralentissement, ce qui n'est à peu près rien du tout sur une carrière. C'est sur une carrière de sportif, c'est un genou. Voilà, c'est quand tu te fais des croisés, tu t'abîmes les genoux, c'est 6 mois. La rééducation la totale et une épaule, bah c'est 4 mois. Donc voilà, un genou, une épaule, et ça y est, on a fait un bébé. Donc c'est vraiment ridicule le temps perdu, on va dire, pendant une grossesse sur une vie. Donc c'est plus l'aspect moral de se faire jeter dehors et puis de te faire ramener à ton rôle de femme, juste maman. Et ça, c'était pas très cool. Ensuite, au-delà de cette mauvaise expérience que j'ai eue personnellement, il y a quand même plein de super bonnes initiatives qui sont prises pour encourager les femmes à bouger. Après, j'ai toujours forcément l'impression que ça va jamais assez vite. Mais ça va pas se faire en une vie, c'est sûr. Donc voilà, faut être un petit peu patiente. Mais oui, il y a plein de belles initiatives, bah, notamment au sein du club alpin français, où j'ai pu créer mon club Lead the Climb, un club 100% féminin. Et on a le soutien de la fédération. On a eu quelques aides financières à la création. Et par contre, on n'a toujours pas de partenaire matériel parce que comme ils soutiennent déjà quelques actions féminines, c'est bon, ils ont leur quota. Ils vont pas non plus en soutenir trop. Enfin, voilà, ça reste quand même encore très timide, il me semble, au niveau des marques, surtout au niveau des marques françaises.
À travers votre club, Lead the Climb, vous vous adressez notamment aux jeunes femmes. Est-ce que c'est important, ça, cette transmission aux adolescentes, aux jeunes?
Nous, c'est plutôt des adultes qui viennent sur le stage, mais de fait, c'est plutôt des 25-35 ans. Là, cette année, on a fait pour la première fois, il va y avoir un camp ado, donc des 16-18 ans. Et oui, évidemment qu'on aimerait vraiment pouvoir emmener des encore plus jeunes, mais après, voilà, c'est trouver les financements et ça, c'est pas mal d'énergie. Mais on y travaille et le club, petit à petit, ça fait 4 ans qu'on existe et il y a de plus en plus de femmes qui s'investissent dans la structure et qui nous aident à trouver des financements et à monter des projets. Donc oui, ça va venir, oui.
Alors repartons sur les sommets à présent, Marion. Vous vouliez justement évoquer une expédition avec votre club dans le massif des Écrins.
Bah, pas plus tard que cette semaine, ouais, on a fait l'ascension de la Grande Ouine. Pour aller à la Grande Ouine, il faut partir de l'Alpe de Villard-d'Arrêt, du village d'Arcine au tout début. Ensuite, on monte à l'Alpe de Villard-d'Arrêt. Ensuite, on va dormir au refuge Adèle Planchard. C'est le plus refuge des Écrins. Et le lendemain, eh bien, on peut monter au sommet de la Grande Ouine. C'est un parcours glacier. Mais cette année, là, comme c'est très sec, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup de neige cet hiver, donc les glaciers sont déjà en glace, alors que normalement, c'est de la neige. Et la neige, elle va fondre petit à petit au cours de l'été. Et puis à l'automne, ce sera de la glace. Mais là, c'est déjà de la glace. Donc on marche sur la glace dure. On est obligé d'utiliser des broches à glace et de s'assurer sur le glacier tellement c'est sec. Et ça nous permet de monter au sommet de la Grande Rouine, qui est un sommet à 3600 mètres d'altitude, quelque chose. Je suis pas très bonne avec les chiffres. En tout cas, on a une vue magnifique sur le dôme des Écrins qui est à 4000 mètres et sur la traversée de la Mèche, dont on a parlé la dernière fois.
Alors, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, Marion, mais c'est vrai qu'en matière de sport féminin, il y a une question qui revient souvent, c'est celle des capacités physiques des femmes par rapport aux hommes. Alors, y a-t-il des différences dans ce domaine qu'est l'alpinisme? En clair, est-ce qu'il y a un alpinisme propre aux femmes? Est-ce qu'elles vont privilégier, par exemple, certaines techniques, certains styles, ou est-ce que ça dépend avant tout des individus, qu'ils soient hommes ou femmes?
Alors c'est clair, comme les femmes, nous n'avons pas les mêmes compétences physiologiques. Alors si on regarde par rapport à la compétition, évidemment que les hommes sont toujours plus forts parce que c'est les hommes qui ont inventé les règles du jeu, qui ont inventé les fédérations sportives, qui ont inventé le sport moderne. Et donc, hasard, ils sont plus forts que nous dans tous les sports qu'ils proposent. On va dire que c'est un hasard. Et donc l'alpinisme, on a la chance, c'est qu'il n'y a pas vraiment de compétition, il n'y a pas vraiment de règles en fait. On pratique vraiment comme on veut. On va pas se mentir que depuis ces dernières années, avec l'évolution du matériel, les sacs sont plus légers. Ça arrange bien les femmes, mais ça arrange aussi les hommes. Hein. Ils vont pas s'en plaindre. Donc, tout le monde s'y retrouve à ce niveau-là. Après, on n'a pas vraiment de recul sur les différences de pratique entre les hommes et les femmes parce que, par exemple, en Himalaya, on suppose que les femmes s'acclimatent mieux parce qu'elles ont une physiologie un petit peu plus lente. Les hommes seraient plus dans les efforts explosifs, les fibres courtes, et les femmes dans les efforts plus longs. Et on remarque qu'elle s'acclimate très mieux, mais les chiffres sont encore tellement faibles parce qu'il y a très peu de pratiquants qu'on ne peut pas affirmer scientifiquement que les femmes sont meilleures en altitude, mais en tout cas, il y a des pistes. Après, l'alpinisme, c'est tellement, on va dire, de la stratégie de partir au bon moment, de trouver la voie qui nous correspond bien physiquement et puis mentalement aussi, parce qu'il y a des voies qui sont très impressionnantes et d'autres moins. Et puis, voilà, c'est tellement complexe que finalement, évidemment, que les femmes, elles ont toute leur place à jouer.
Eh bien Marion Poitevin, nous arrivons au terme de cet entretien. Un grand merci à vous et surtout longue vie à votre club.
Merci.
Simone Badier fait partie des grands noms de l'alpinisme français. Elle nous a quittés le 18 mars 2022. Dans son livre « La Dame de Pique », sorti en 2008 aux éditions Guérin, elle écrit ceci en parfaite résonance avec le combat de Marion Poitevin.
Il m'a suffi, au hasard d'une sortie en falaise, un soir où j'avais épuisé tous mes leaders, de faire une première voix, bien modeste, en tête de cordée, pour balayer l'idée toute faite qui encombrait mon cerveau. Ce jour fut une révélation, première de cordée. Non seulement ça n'était pas impossible, mais c'était extraordinairement facile. Je venais de conquérir un monde interdit qui désormais m'appartenait.
Simone Badier effectuera de fait un grand nombre de ses ascensions en tête d'expédition. Première de cordée, c'est le titre d'un livre que Charlie Buffet a consacré en 2003 à une autre grande dame de l'alpinisme hexagonal. Claude Cogan a appris l'alpinisme sur les sommets du massif des Écrins, cher à Marion Poitevin. En 1959, elle organise dans l'Himalaya la première expédition internationale exclusivement féminine. Même si elle trouve la mort lors de cette ascension du Cho-Oyu, son nom reste associé au combat des femmes alpinistes pour davantage de reconnaissance, de respect et de liberté.
Écoutons l'une de ses cinq amies de cordée, Jeanne Franco, dans l'émission de télévision « 5 colonnes à la une » diffusée sur RTF le 15 janvier 1960. Au micro de Pierre Desgroupes, elle réagit aux images ramenées par l'expédition elle-même. Dans cet extrait, elle est confrontée aux questions de circonstances lorsque l'on est une femme alpiniste, sur ce qu'on qualifie à l'époque de féminité. Des questions qui, précisons-le, ne sont pas du tout le cœur de cette remarquable émission, à découvrir si vous le pouvez dans son intégralité sur le site de l'Institut National de l'Audiovisuel. Mais il nous semblait pertinent d'entendre les réponses de Jeanne Franco qui, loin du cliché du garçon manqué ou à l'inverse de préoccupations superficielles, raconte avec beaucoup de simplicité comment les femmes réinventent leur routine en altitude. Notez d'ailleurs que ces images, elles-mêmes, ont choisi de les montrer.
Dans quelques instants, vous allez voir une image très émouvante. On vous y voit, Jeanne Franco, en compagnie de Claude Cogan. Vous avez le chapeau blanc.
Claude Cogan, c'était l'âme de notre expédition. C'était une organisatrice. Nous sommes en train ici de payer les 115 Sherpas que nous allons renvoyer pour prendre le Sherpa d'altitude.
C'est un peu comme si elle était chef d'entreprise.
Absolument. Elle l'était d'ailleurs dans sa vie, puisqu'elle menait son affaire à Nice avec beaucoup d'autorité. Ici, les Sherpas d'altitude partent, et c'est Claude et Dorothée qui surveillent tous les départs. Et puis, c'est le tour des Mimsab. Les avant, dernier souci d'élégance pour Claudine van der Straat, toujours très féminine.
Le coiffeur, c'est Claude Cogan. Est-ce qu'on peut avoir encore des soucis d'élégance à cette altitude et dans une entreprise pareille? On ne s'oublie pas un peu?
Claudine les a eu tout le long de l'expédition.
Et Claude Cogan?
Et Claude Cogan aussi. C'est-à-dire que sa mère était dans un institut de beauté et peut-être il y a un peu d'atavisme.
Elle savait donc couper les cheveux?
Elle coupait les cheveux très bien. Elle les coupait à toutes les mêmes sables. Le grand torrent et le départ vers le camp de base en 4 jours. Les Mimsab sont très reposés et partent très allègrement sur cette moraine difficile qui croule sous le pied. Les porteurs suivent.
Altitude?
Autour de 4000-4005. Ici, c'est le camp de base, moment de toilette avant de partir dans les grandes altitudes.
C'est Claude Cogan.
Claude Cogan soigne ses pieds. Elle les soignait avec un soin jaloux, ses pieds, ses mains et puis encore ses pieds. C'était grâce à eux, en somme, qu'elle montait si haut. Le départ vers le camp 1, c'est un peu un banc d'essai. Les 12 Mimsab partent sur l'arête.
En tête avec le chapeau blanc, Claude Cogan.
Claude Cogan est en tête. Elle était toujours en tête. Très en forme avec Claudine van der Straat. Voilà la caravane qui s'égrène.
C'est ce jour-là que la caméra a enregistré les dernières images de Claude et de Claudine. Ces petites silhouettes dans les nuages, ce sont celles qu'ont suivi des yeux les dernières compagnes des deux jeunes femmes avant de les perdre de vue. Après, celles qui restaient n'ont plus vu que la montagne, le Cho-Oyu qui garde avec les corps de Claudine et de Claude, à jamais enfoui sous 10 mètres de neige, le terrible secret de leur mort. Jeanne Franco, je vais vous poser une dernière question, je pourrais la poser à n'importe laquelle de vos compagnes d'ailleurs, je crois que beaucoup de monde aurait envie de vous la poser. Qu'est-ce que 12 femmes pouvaient aller chercher aussi haut et aussi loin de chez elles?
C'est une question très embarrassante. Toutes ces femmes étaient alpinistes. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'alpinisme. Et comme l'alpinisme prend aussi bien les hommes que les femmes, c'est une vraie passion. lorsqu'on a découvert les Alpes et lorsqu'on a entendu parler autour de soi d'alpinisme, d'himalayisme, comme c'est le cas pour beaucoup de nous qui étions dans cette expédition, on est très tenté de connaître ces sommets de 8000. C'est une hantise, il faut qu'on les connaisse.
Au cours de cette émission, vous avez pu entendre également un extrait d'un article de Paul Preuss de 1912 dans la revue Deutsche Alpenzeitung, cité par la légende de l'alpinisme Reinhold Messner dans son livre « Femmes au sommet » publié chez Artaud en 2011. Un extrait du livre de Simone Badier, « La Dame de Pique », sorti en 2008 aux éditions Guérin et que nous vous recommandons vivement, et des extraits de l'excellente émission de télévision « 5 colonnes à la une » diffusée le 15 janvier 1960 sur RTF et présentée par le journaliste Pierre Desgroupes, que nous vous invitons encore une fois à regarder dans son intégralité.
Côté musique, vous avez pu entendre, outre un virtuose morceau de Ragtime, Steve Tibbetts' « Life of Emily » suivi de « The Big Wind ». Et nous nous quittons avec la compositrice Camille Pépin d'un matin de printemps, extrait de l'album The Sound of Trees. Toutes ces références sont bien entendu à retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. À bientôt pour une nouvelle ascension.